Suite du livre de l'Exode, chapitre 16 en son entier, qui ne sera pas lu, ainsi que les chapitres suivants 17, 18 et 19. L'auditeur est prié de se reporter à sa Bible pour la lecture de ces textes.
Dans les versets 32, 33 et 34, où il est question de cette conservation d'une sorte d'échantillon, Un homère fait, d'après les rabbins juifs, fait 2 litres environ. Alors, Aaron avait pris un vase, l'avait, sur l'ordre de Moïse, rempli de manne et l'avait conservé en le mettant devant le témoignage. Mais il y a là, n'est-ce pas, je pense que vous l'avez compris à la lecture, un anachronisme, parce que le témoignage, à ce moment-là, c'est-à-dire la tente du témoignage, la tente et l'arche, tout cela n'est pas encore construit. Il n'y a pas encore tout cela. Si bien que, n'est-ce pas, comme ça arrive quelquefois dans le texte biblique, sans que pour cela, vous savez, le Saint-Esprit, lui, est libre, il s'exprime librement. Il ne s'occupe pas de nos petites délicatesses, n'est-ce pas, et de nos difficultés, souvent, à bien comprendre. Alors, ceci a été écrit en même temps, n'est-ce pas, c'est-à-dire quand on a fait la relation, n'est-ce pas, ce chapitre 16, par exemple, n'est-ce pas, eh bien, à ce moment-là, le tabernacle a été édifié et l'on a inséré cet ordre-là, qui a pu être donné à ce moment-là, mais qui n'a pas pu être exécuté avant que le tabernacle ne soit établi. Je dis ça parce que des questions quelquefois me sont posées comme ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas, vous savez, buter contre l'écriture et puis buter contre une difficulté, surtout, n'est-ce pas, avec un esprit qui sent un petit peu la contestation. Surtout pas, chers amis, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Il faut que nous l'aimions et nous la respections en toutes ses parties. Le peuple avait donc élevé des murmures pour la seconde fois. La première fois, c'était à Mara, ici, pour la soif, et ici, c'est pour la faim. Et le peuple est inquiet pour sa nourriture, se demande ce qu'il va manger. Et ils murmurent, et ces murmures sont des récriminations, des contestations d'un manque de foi, de l'incrédulité des cœurs. Et Dieu annonce à Moïse qu'il fera pleuvoir du pain du haut des cieux, notons bien cela, du haut des cieux, et cela jour par jour, afin de mettre le peuple à l'épreuve. Dieu veut voir. Dieu veut constater si oui ou non les enfants d'Israël se mettront à marcher par la foi dans la confiance en leur Dieu. Et constamment, nous voyons cela dans l'Ancien Testament, nous le trouvons aussi, mais pas exprimé de la même manière dans le Nouveau Testament. Mais l'intention de Dieu est la même dans l'Église, Dieu veut voir, il veut constater si nous savons marcher par la foi, si nous sommes des élèves qui font des progrès, car nous sommes à l'école de Dieu, pour apprendre. Et ce qu'il faut apprendre en premier lieu, c'est la foi d'obéissance. Parce que tout repose là, nous l'avons déjà dit, n'est-ce pas, mais il faut le redire sans cesse, tout repose sur cette foi d'obéissance. Un chrétien qui n'a pas inscrit dans le programme de son cœur cette foi d'obéissance, est un chrétien qui ne voit pas clair. La foi d'obéissance, c'est l'expression de l'apôtre Paul, une foi d'obéissance, une foi qui va s'appliquer à obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus ayant dit, n'est-ce pas, et répété, celui qui garde mes commandements, ce qui veut dire littéralement, en utilisant le sens des mots dans le texte original, celui qui établit une garde sur la parole qu'il a reçue en lui, une garde pour ne pas qu'elle se perde, et pour ne pas qu'elle s'oublie et ne soit plus observée. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et c'est celui-là qui entrera dans la communion. Le Seigneur ne veut pas que le peuple fasse de provisions. Elle ne veut pas qu'il ait, comme il avait en Égypte, des pots de viande. On devait faire des conserves dans des vases de terre, n'est-ce pas? Et alors, on en mettait dans tous les coins, n'est-ce pas? Et on pouvait regarder ses provisions. On était rassurés. Pas de pain à satiété. En somme, rien qui rassure la vue. Rien de visible. Le dénuement extérieur. La richesse un par Dieu, mais extérieurement, il n'y a rien, rien. Ah, ça changeait le peuple, n'est-ce pas, qui rappelle lui ses pots de viande et son pain qu'il mangeait en abondance en Égypte. Et là, là, il ne peut rien, rien voir. Il faut qu'il exerce constamment la confiance en son Dieu. Il faudra que chaque matin, il attende le prodige de la manne qui va descendre du haut des cieux, il faudra qu'il apprenne à vivre dans la dépendance journalière de Dieu. Et chers amis, rien de cette intention de Dieu n'est modifié, rien. Je répète toujours, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pas pour ses promesses seulement, pour son attente. Il est le même. Et le Seigneur Jésus, dans cette prière modèle, a mis ceci, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donne-nous notre pain quotidien. Tous les jours, chaque jour, nous devons nous attendre à Dieu. Et le pain quotidien, ce n'est pas seulement le pain que nous mangeons à table. C'est d'une manière générale. Tout ce qui va satisfaire la faim et la soif. Dieu a créé la faim, il a créé la soif. Il crée aussi ce qui va satisfaire la faim et la soif. Spirituellement, autant que matériellement. Alors, Dieu veut que tous les jours, dès l'aurore, dès que nous ouvrons les yeux, nous nous attendions à lui, chers amis. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la discipline de la vie chrétienne. S'attendre tous les jours au Seigneur. Tous les jours. Il faut apprendre, c'est une chose qui s'apprend. Dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, mais dans le Nouveau, nous avons ça aussi, l'apôtre Paul nous montre qu'il a appris lui-même des choses. Et mieux, le Seigneur Jésus a appris, lui. Il a appris bien qu'il fût fils. Il a appris l'obéissance bien qu'il fût fils, dit l'Épître aux Hébreux. Lui, le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, venu sur la terre, il a quelque chose à apprendre de ce monde impie, bouleversé. Oui, oui, dans une nature humaine, dans cette nature humaine qu'il prend, il a quelque chose à apprendre. Eh bien, il va apprendre l'obéissance dans les larmes, parce qu'il prend une nature humaine qui est réfractaire à l'obéissance. La chute a eu cet effet que la nature humaine est devenue réfractaire, elle est dans la révolte. Ce qui caractérise l'homme, c'est la révolte, les fils de la rébellion. Il y a un mot hébreu aussi, je disais ce matin, il y a un mot qui signifie tension et qui parle du péché. Il y a une quinzaine de mots hébreux qui sont traduits par péché. Alors vous voyez, enfin, il y en a. Eh bien, il y en a un autre mot hébreu qui, lui, signifie rébellion. C'est pour ça que Paul appelle, n'est-ce pas, les hommes inconvertis les fils de la rébellion. Mais nous étions tous de ces fils-là, fils de la rébellion, parce que l'une des grandes caractéristiques du péché, c'est la rébellion de Satan, la rébellion d'Adam qui suit la suggestion de Satan. Il faudra donc chaque matin s'attendre au prodige, vivre dans la dépendance journalière de Dieu. Avant toute chose, le peuple doit voir la gloire de l'Éternel. Et il va voir la nuée, la nuée. En détournant ses regards du camp vers le large, tu regarderas vers le désert, c'est-à-dire vers le vide, le large. Tu ne regarderas pas du côté du camp. La nuée ne va pas venir sur le camp encore. mais elle va venir là, dans le désert. Regarde vers le large, c'est-à-dire aussi dans la direction de la marche que tu vas accomplir. C'est par là que tu vas partir. Eh bien, regarde dans cette direction-là. Nous aussi, nous avons à regarder dans la direction par où nous allons, dans la direction que nous suivons, par où nous conduit le Seigneur, c'est-à-dire vers le royaume de Dieu. Cette nuée, il l'avait déjà vue, il l'avait vue au moment du passage de la mer Rouge, mais ici elle prend un aspect éclatant, et comme Moïse le leur avait dit, ils voient la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, sur laquelle nous nous arrêtons un petit instant, signifie quatre choses. Elle s'appelle la Shekinah, la gloire de Dieu, la Shekinah. Nous avions, il y a quelques années, on chantait un cantique sur la Shekinah ici. On l'a laissé d'un peu de côté, ce cantique. Un peu dommage. La Shekinah. Eh bien, il y a quatre choses que cela signifie. Voyons d'abord pour le peuple d'Israël. Cela signifie que Dieu a entendu les murmures de son peuple. Il a entendu ses récriminations. Il a entendu, évidemment, le peuple exprimer ses besoins, mais évidemment avec un esprit qui n'était pas le bon. Deuxièmement, cela montre que c'est bien Dieu qui a fait sortir le peuple d'Égypte, et ce n'est point Moïse et Aaron de leur propre chef. Moïse est obligé de souligner ça. Ce n'est pas nous, c'est l'Éternel. Troisième chose, la nuée, la gloire de Dieu, apparaissant, signifie qu'il convient désormais de s'attendre à Dieu pour toutes choses. Nourriture, marche, sécurité. Quatrièmement, elle signifie qu'en murmurant contre Moïse, c'est contre l'Éternel qu'ils l'ont fait. Eh bien, cela peut se traduire pour l'Église, vous savez. Dieu entend ce que le peuple de l'Église lui dit. Il entend sa prière, et il peut entendre aussi ses murmures, même si ces murmures ne sont pas exprimés par la bouche, ils se trouvent souvent dans le cœur, et Dieu lit au fond des cœurs. Alors Dieu est toujours informé, il sait où nous en sommes, il sait ce que nous pensons. Cela peut se traduire pour l'Église aussi, elle a été délivrée, non pas en sortant de l'Égypte, mais en sortant de la captivité qu'elle occupait lorsqu'elle était à l'unisson du monde. N'est-ce pas ? Nous ne sommes plus dans le monde, ce qui veut dire nous ne sommes plus à l'unisson du monde. Nous sommes séparés d'esprit avec le monde. Eh bien, c'est le Seigneur qui nous a délivrés. C'est son amour qui l'a fait. Et puis, bien entendu, que nous nous attendions à Dieu, cela, je l'ai dit tout à l'heure, demeure, et que tout murmure que nous pourrions prononcer contre, par exemple, sait-on, les exigences de la parole de Dieu, contre l'Église, peut-être, n'est-ce pas ? Eh bien, tout cela atteindrait Dieu. Et il faut que le chrétien, n'est-ce pas, sache tout cela. Puis, le récit que nous avons lu nous apprend que vers le soir, en effet, entre les deux soirs, c'est-à-dire entre les deux vêpres, le mot vêpre, c'est soir en latin. Entre les deux soirs, nous en avons déjà parlé l'autre jour, n'est-ce pas, c'est-à-dire à partir de ce moment où l'on sent que le soleil n'est plus dans sa force et commence à décliner, jusque alors au moment où il va disparaître, il disparaît. Alors quand il disparaît, il y a encore des lueurs, c'est le deuxième soir. Le premier soir, les lueurs baissent jusqu'à la disparition du soleil derrière l'horizon, et puis, une fois le soleil disparu, il y a encore un soir, c'est-à-dire il y a encore des lueurs, n'est-ce pas, qui vont s'éteindre, et c'est ce qu'on appelle les deux soirs. Alors entre ces deux soirs, entre, mettons, l'hiver, 3 heures et 6 heures. Alors, il y eut là une pluie, véritable pluie de caille. Et ces cailles, elles venaient d'au-delà de la mer Rouge, c'est ce que nous apprend un passage du livre des Nombres qui a trait à une autre circonstance, car il y aura encore une chute de cailles plus tard, dans le désert de Paran. Et ces cailles sont poussées par un vent, nous dit le livre des Nombres, elles viennent en grand nombre, et cela se produit parce que la parole l'avait annoncé. Le peuple, d'ailleurs, dans ses murmures, avait dit quelque chose qui avait, évidemment, atteint le Seigneur, l'Éternel. Nous trouvons cela dans le psaume 78, verset 17. Le psaume 78 retrace tous ces événements, et il, en somme, il les commente, il les pèse, il les évalue, n'est-ce pas ? Le psaume 78, verset 17. Mais ils continuèrent à pécher, il s'agit du peuple d'Israël, des enfants d'Israël, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Voyez-vous ce que je vous disais ? Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Voilà une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Tenter Dieu dans leur cœur. En demandant de la nourriture selon leur désir. Selon leur désir d'homme, ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Ils se faisaient fort, nous n'avons pas de nourriture. Moïse nous laisse bien entendre que l'Éternel nous nourrira. Mais est-ce que l'Éternel peut dresser une table pour tout ce monde-là dans le désert ? Voyons, c'est pas possible ça. Toujours, n'est-ce pas ? Toujours. L'homme, avec son raisonnement, qui attaque, qui bute contre la parole de Dieu, le cœur de l'homme, le cœur naturel de l'homme, qui est fermé, qui est dur. Eh bien, Dieu ne dressa pas une table, mais il fit venir de la viande pour simplement à titre d'épreuve et de démonstration, car il ne va pas continuer cela. Je vous dis, il n'y a eu que deux occasions comme celle-là. Et les cailles, en effet, arrivèrent poussées par un vent. C'est une chose qui se produit, nous dit-on, souvent, assez souvent, dans ces contrées-là, surtout les contrées plus orientales encore que celles-là. Mais ici, la parole de Dieu l'avait annoncé, c'est donc une action de l'Éternel. Il y eut un tel amas de cailles que tout le peuple en fut rassasié. Là, c'est pour Dieu veut montrer à ce peuple combien il est vain lorsque il conteste contre Dieu. Que Dieu peut tout, même leur donner de la viande, des pots de viande. Il peut leur en donner de la viande s'il veut. Il va leur donner mieux que cela. Mais ici, de la viande, il pourrait leur en donner. Mais s'il leur avait donné la viande pendant toute la marche dans le désert, ils auraient été malades. Tandis que là, dans le désert, ils ne seront pas malades. Et ensuite, il s'agit de la manne, à partir du verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. On a parlé, et je dis cela parce que il est possible que vous ayez eu en main des ouvrages qui vous aient dit cela et que ces ouvrages-là font beaucoup plus de mal que de bien. Par exemple, l'ouvrage « La Bible arrachée au sable », si j'ai bonne mémoire, relate aussi le fait que dans ces régions du désert, il y a soit un lichen, soit une exsudation d'un petit arbuste appelé tarfa, qui, en raison de la piqûre d'un insecte, etc., cette exsudation tombe sur le sol en grosses gouttes, des gouttes qui sont comme des gouttes de résine, et que cela fait une manne, et que la manne qu'ont mangé les Israélites, c'était cela. Ce n'est pas vrai du tout. Ça, ce sont des gens qui font passer leur incrédulité en forme de foi prétendue. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui n'ont absolument pas l'authentique foi. Eh bien, il y a en effet une manne qu'on pourrait appeler, si vous voulez, naturelle, qui provient en effet d'un petit arbuste qui, comme je vous le disais, laisse tomber à terre des gouttes semblables à de la gomme, et cette manne, les Arabes la recueillent dans certains cas, dans certaines régions, dans certaines régions du désert. Ils la recueillent, cela après la saison des pluies, uniquement après la saison des pluies, mais il s'agit là d'une manne qui est tout à fait différente de celle qui tomba du ciel pendant 40 ans pour nourrir les enfants d'Israël. D'abord, la manne naturelle ne peut jamais couvrir le sol, comme nous voyons ici que cela était, parce que on la trouve là autour de l'arbrisseau qui la produit. On la trouve là, mais pas plus loin, n'est-ce pas ? Ensuite, elle ne se produit pas en toute saison, mais en une seule saison, pendant l'espace d'un mois ou d'un mois et demi. C'est tout dans l'année, n'est-ce pas ? Et uniquement en certains endroits, en certains points du désert. La manne naturelle, d'ailleurs, d'après, moi je n'en ai pas vu, n'en ai jamais vu, mais d'après ce qu'on nous dit, elle est molle et elle ne peut pas se broyer, tandis qu'ici, nous apprenons dans la Bible que les enfants d'Israël pouvaient broyer la manne qui tombait du ciel. Elle ne peut pas se broyer et c'est une gomme, c'est une sorte de résine, et c'est pas un aliment. Elle sert, lorsqu'elle est vendue, utilisée ou vendue par les Arabes, elle sert de condiment ou de purgatif. Et c'est pas du tout un aliment, pas du tout. Alors, reste encore cette autre matière, le lichen. Mais le lichen, lui, alors, n'est pas du tout un aliment, n'est-ce pas ? Il n'a pas du tout le goût de miel, et puis il ne peut pas, lui, non plus, couvrir tout le sol, hein, et suivre le camp d'Israël. Mais vous savez, c'est effrayant, des gens veulent, n'est-ce pas, venir là, en quelque sorte, nous étonner avec leur science, et puis nous dire, moi, vous savez, je peux vous expliquer le miracle. Un miracle, ça ne s'explique pas. Et là, n'est-ce pas, notre foi, si nous voulons que notre foi se nourrisse, il faut que nous acceptions le prodige. C'est un prodige de Dieu. D'ailleurs, la manne dont parle la Bible tombera pendant 40 ans, je l'ai dit, et sur toutes sortes de régions désertiques, là où était le peuple en stationnement, et en plus, le jour du sabbat, il n'y avait absolument rien. C'était net, elle ne tombait pas. Et remarquons d'ailleurs que ceci, c'est que le texte nous met bien sur la voie d'un prodige, c'est-à-dire vraiment d'un produit qui tombe du haut des cieux. Car il nous est dit qu'il y eut sur la terre, le premier soir et les autres, le premier matin et les autres matins, évidemment, de la même manière, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Ça, c'est l'aspect extérieur. Eh bien, une couche de rosée autour du camp, et la rosée se dissipa parce que dès que la chaleur vint un peu, dès que le soleil vint un peu, la rosée s'évapora, l'eau s'évapora, et laissa sur le sol la manne de Dieu. Et il semble bien, par conséquent, que la substance de cette manne était descendue avec la rosée, par le moyen de la rosée, peut-être sous forme de solution, ou en suspension, tout au moins, dans cette rosée, en suspension, et c'est la rosée qui, en s'évaporant, laisse, libère un dépôt qui est la manne. Donc la rosée, elle tombe de bien haut, hein, elle vient de haut. En voyant pour la première fois ce dépôt de grains sur le sol, le peuple s'interroge, qu'est-ce que c'est que cela? On a voulu voir là l'origine du mot man, manou, qu'est-ce que c'est cela, manou, en hébreu, c'est assez, bon, on ne peut pas l'affirmer, n'est-ce pas? Peu importe, d'ailleurs, le peuple donnera le nom de man à ce pain qui lui tombe du ciel. Et c'est Moïse qui désigne, en effet, cette gelée blanche, cette quelque chose de menu, là, qui couvrait le sol, comme le pain de l'Éternel. Il faudra en prendre un homère par tête, 2 litres par personne. L'abondance de la manne répondait donc exactement aux besoins du peuple dans cette proportion. Et Moïse avait dit au peuple que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ne gardez pas, surtout, c'est pas un produit qu'il faut conserver, ça. Il faut le consommer et puis ne pas en garder. Mais, ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Ah, il y a toujours des gens qui sont réfractaires. Mes amis, voulez-vous être de ces gens-là? Non. Mais dans l'Église, attention, chers amis, il faut bien savoir comment nous avons à nous comporter au milieu de nos frères et de nos sœurs et au milieu du monde aussi. Et chers amis, il faut obéir à tout, à tout. Quand il nous est dit, par exemple, d'user de prévenance, eh bien, il faut user de prévenance. Quand il nous est dit qu'il faut être sobre en parole, eh bien, il faut l'être. Eh bien, des choses qui nous sont dites dans le Nouveau Testament, il faut relire cela, et il ne faut pas être réfractaire. Faire comme si on n'avait pas entendu, ou faire le contraire, n'est-ce pas, parce que on n'attache pas d'importance à ce qui a été dit. Tout cela, c'est le péché. C'est le péché dans l'Église. Ça ne peut pas faire une Église, cela. Les réfractaires sont précisément ceux qui déchirent, qui détruisent l'Église de Jésus-Christ. L'homme, d'ailleurs, a toujours eu en lui la velléité de dépasser la parole de Dieu, d'aller soit au-delà ou soit en deçà, enfin, toujours de s'écarter de la parole de Dieu. Foi et confiance sont pourtant ce que l'Éternel nous demande à nous maintenant, comme autrefois, et n'oublions pas ceci, c'est que le Seigneur conduit notre éducation dans ce sens-là. Il veut nous apprendre la foi, non seulement la foi pour compter sur lui, sur ses promesses, sur son secours, mais la foi d'obéissance, la foi d'obéissance. Mais l'homme souvent est taquiné par la chair, ce qui est appelé la chair, c'est-à-dire sa nature première. Et il est constamment sollicité. Alors il faut que nous, chrétiens, nous vivions vraiment par la foi. C'est là qu'il faut montrer sa foi aussi, n'est-ce pas, dans une lutte intérieure, pour se dire, non, je ne peux pas, ma nature m'incline toujours à la désobéissance, mais moi, par la foi, je veux triompher. Je veux triompher de cela par la foi. Seigneur, je n'ai pas la force, mais je compte sur ta grâce. Et le Seigneur vous donnera la grâce pour triompher. L'homme veut voir, l'homme veut vérifier. La manne qui était gardée jusqu'au matin se corrompait et il s'y mettait des vers. Alors que l'échantillon de manne a été conservé sans conservateur. Un homère, n'est-ce pas, a été mis dans un vase par Aaron, et il a été conservé très longtemps, des années, et il ne s'est jamais corrompu. On n'avait pas mis de conservateur, soyez tranquille, n'est-ce pas? Il s'est conservé parce que Dieu avait dit qu'il fallait conserver un homère, à titre d'échantillon, pour le montrer aux descendants du peuple. Et il s'est conservé. Et là, n'est-ce pas, la manne qui était gardée en vertu d'une désobéissance ne s'est pas conservée, s'y est mis des vers. Ça nous montre une chose, c'est que Dieu est maître de tout, absolument toutes les parties, les moindres parties de sa création. Et tout lui obéit, même les vers. Il est maître de tout. Il peut empêcher quelque chose. Il peut provoquer quelque chose. Tout cela pour notre éducation, chers amis. Notre éducation. Car l'amour de Dieu est un amour qui veut nous éduquer pour nous sauver. Et puis, ici, il est question ensuite du septième jour. Le sixième jour, il fallait ramasser une quantité double de nourriture, alors deux homères par personne, et puis en garder la moitié pour le lendemain. Et alors, ce jour-là, ça se conservait aussi. Ça se conservait. Ils ne s'y mettaient pas les vers. Le texte nous le dit. Vous voyez, quand on fait exactement la volonté de Dieu, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Quand on fait la volonté de Dieu. Et il faut compter sur le surnaturel. Même si le surnaturel ne se manifeste pas avec un grand éclat, il faut compter. Nos vies doivent pouvoir compter et s'établir sur les promesses de Dieu, donc sur le surnaturel de Dieu. Ce sabbat, sabbat c'est un mot qui signifie repos dans le sens de cessation de travail, cessation de tâche, cessation d'œuvre. Et c'est ici qu'il apparaît pour la première fois en tant que septième jour indiqué au peuple. Il apparaît ici et il entrera ensuite dans le décalogue. Et il a pour fondement le repos que l'Éternel s'était donné lui-même dans le chapitre 2 de la Genèse. L'Éternel se reposa de ses œuvres, s'arrêta de ses œuvres, et c'est là le point de départ du sabbat, le septième jour. Jusque à quand refuserez-vous? Car en effet, là encore, il se trouve quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. Il y a toujours des gens pour désobéir, quelques-uns du peuple qui sortirent pour aller en ramasser. Ils n'en trouvèrent point, c'est-à-dire pour aller vérifier, en somme. Ils avaient bien entendu Moïse qui leur disait, il n'y en aura pas le septième jour. Ramassez-en le double, il n'y en aura pas. Et si on allait voir? Et pour voir, n'est-ce pas? Si on allait voir. Ah, c'est terrible cette nature humaine. Il faut la connaître, n'est-ce pas? Il faut vraiment tenir les rênes, comme dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Tenir les rênes de cette nature humaine. Alors l'Éternel dit, jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Toujours pareil, cette propension à désobéir à la parole de Dieu. Eh bien, nous allons maintenant terminer par une petite méditation sur ce chapitre que nous venons de lire. Nous pouvons dire ceci, c'est que la bonté et la puissance de Dieu sont grandes, et que l'une et l'autre s'emploient à la vie et au bonheur de l'homme, lorsque celui-ci, librement, se conduit en obéissant à la parole de Dieu. L'obéissance est une chose libre. La liberté est nécessaire pour obéir, car être contraint à faire la volonté de Dieu, ce n'est pas l'obéissance. Enfin, c'est faire par force. Ce n'est pas l'amour ni l'obéissance. Or, Dieu veut l'amour, l'obéissance par l'amour. Il faut donc être libre, et nous sommes libres pour cela. Alors, l'homme qui ne se permet pas de changer quoi que ce soit à la parole de Dieu, qui n'y ajoute pas, qui n'en retranche rien, ajouter ou retrancher, on peut le faire soit dans la lettre, en oubliant quelque chose, en laissant quelque chose volontairement de côté, en ajoutant quelque chose de soi, on peut le faire aussi en transformant la signification de la parole de Dieu, n'est-ce pas? On peut très bien, à ce moment-là, retrancher ou ajouter dans la signification. Eh bien, il faut que l'homme se garde de faire cela. La foi d'obéissance est la source de la vie chrétienne véritable et exaltante. Dieu pourvoit, lui, en toutes choses. Dieu pourvoit. Même le Seigneur nous a parlé, Seigneur Jésus nous a parlé de notre vie courante. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger et de quoi vous serez habillé. On pourrait même ajouter, et puis pour le logement aussi. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Dieu sait bien que vous en avez besoin. Laisse-t-il les petits oiseaux sans nourriture? Vous valez bien plus que des passereaux. Vous valez bien plus qu'eux, car l'amour de Dieu s'est porté sur vous. Alors, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Ce sont les païens qui font cela, ceux qui n'exercent pas la foi. Mais vous, regardez d'abord, essentiellement, au royaume de Dieu et à sa justice. Tendez-vous vers cela. C'est cela que vous devez voir. Et puis, toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu pourvoit en toutes choses. Il le veut, il le peut. Et son amour est sans cesse à l'œuvre. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui se repose. C'est un amour qui est sans cesse à l'œuvre. Dieu désire qu'on lui soit reconnaissant aussi, car la reconnaissance appartient à ce lien privilégié et merveilleux qui est l'amour, l'amour établi entre Dieu et sa créature humaine. Méfions-nous de notre cœur naturel et apprenons, nous aussi, désirons apprendre. Mettons-nous à l'école de Dieu pour apprendre la confiance en Dieu. Ça s'apprend, chers amis, ça ne s'invente pas. Ça ne se trouve pas quand on en a besoin. Quand on en a besoin, on sent qu'on en manque, précisément. On sent que ça vous fait défaut. Il faut l'apprendre, jour après jour. La confiance en Dieu, la confiance constante. Car la foi doit se manifester également par la confiance en Dieu. Ça fait partie de la foi du chrétien. Il suffisait au peuple d'aller chaque matin, sauf le jour du sabbat, ramasser la manne, là était son rôle. Le rôle du peuple n'était pas de fabriquer quelque chose, d'inventer quelque chose, c'était de recueillir. De recueillir, de prendre le bienfait de Dieu humblement. Rien à imaginer, rien à construire, rien à modifier, ce qui nous montre que la vraie activité de l'homme, c'est de participer aux œuvres de Dieu. Voilà ce que Dieu voudrait. Pas que nous fassions toutes sortes de machines. Vous savez, les machines, elles vont toutes être démolies. Lisez Ésaïe chapitre 2 et d'autres passages d'écriture. Tout va être démoli sur la terre. Ne croyez pas que l'humanité va être heureuse avec ses techniques et tout son matériel. Tout va être démoli et brûlé au feu, toutes les œuvres des hommes. Tout va être brûlé. Il y a toute une chose, vous savez, à examiner là. Bien sûr, c'est en dehors de notre sujet, mais enfin, je vous le signale seulement, c'est assez intéressant. Remonter un peu au travers des Écritures pour discerner quelle était vraiment l'intention de Dieu quant à l'homme sur la terre, qui devait s'assujettir toute chose, devait-il devenir ce mécanicien, ce constructeur de toutes sortes d'usines et d'engins, de choses extraordinaires avec les matériaux de la terre. L'activité, la vraie activité de l'homme, c'est de participer aux œuvres de Dieu. Et l'expression de l'apôtre Paul est magnifique, elle est claire. Vous êtes ouvriers avec Dieu. Participez aux œuvres de Dieu. La manne a été le pain des grands ou le pain des forts, comme dit le psaume 78, le blé du ciel. Elle est appelée aussi le blé du ciel. Or, vous savez que Jésus, descendant du ciel, pour sauver les hommes devenus ses frères, se désigne lui-même comme le vrai pain du ciel. Dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, le vrai pain du ciel. Au verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Vous voyez comme il fallait que la manne qui était en somme, non seulement une nourriture pour le moment, nourriture des corps, mais qui était une image aussi, mais qui était une prophétie, mais qui était une promesse, il fallait bien qu'elle tombe du ciel. C'est le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, mes amis, nous pouvons en retirer cette assurance, cette certitude, que le salut, notre salut, le salut chrétien, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas d'être savant. Le salut chrétien, c'est une personne, Christ, dont il faut être nourri, nourri d'une personne. C'est une personne, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, celui qui mange ma chair. Et cela fait une différenciation entre la personne qui aime s'intéresser peut-être à la doctrine, à l'évangile, aux idées, mais qui ne vient pas vraiment à Jésus-Christ pour s'en nourrir, pour manger sa chair et boire son sang. Or, manger la chair et boire son sang, cela se fait une fois. La Sainte Cène n'est que la commémoration, n'est-ce pas, de cela. Mais manger ma chair et boire mon sang, cela se fait une fois. On reçoit le Seigneur Jésus avec toute la puissance rédemptrice qu'il apporte, la victoire qu'il nous communique, si bien que le témoignage de Dieu donné par la première épître de Jean ne peut être en effet que celui-ci. Vous lirez à la fin de la première épître de Jean au chapitre 5. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors le salut, c'est une personne. C'est la possession d'une personne. Il faut absolument, n'est-ce pas, que nous soyons nourris du Seigneur. Et pour cela, il faut passer, évidemment, comme nous le disions ce matin, par une réelle repentance qui est une œuvre, une action du Saint-Esprit, non pour écraser l'homme et pour l'amoindrir encore, mais au contraire, pour le régénérer, le relever et le dégager, l'affranchir de son péché. Celui qui a le Fils a la vie. Amen.